Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas.
La bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, nous ne sommes pas à table, nous sommes à la campagne et nous sommes en ville aussi. Nous sommes à Alès, à 500 mètres du centre-ville, dans une ferme, la ferme Spiruline Arc-en-Ciel avec Émilie Rousseloup et son époux Franck Lépiné, et qui sont de jeunes agriculteurs qui ont choisi de venir s'installer dans la région d'Alès pour produire de la spiruline de façon artisanale dans une ferme de centre-ville, ce qui est quand même assez rare.
Ah oui, merci, bienvenue ici.
Alors là, on est en ville, mais on est à la ferme.
C'est ça. C'est vrai qu'on a la chance à Alès d'avoir un quartier agricole qui est vraiment très grand et qui est juste à côté du centre-ville.
La spiruline, c'est une petite algue spiralée.
Exactement. En fait, la spiruline appartient à la famille des cyanobactéries. Son nom scientifique, c'est Arthrospira plantensis. Et donc, si on la regarde au microscope, on voit qu'elle a effectivement une forme de spirale.
Émilie, les origines de la spiruline?
Bah alors, 3,5 milliards d'années. Donc, la spiruline appartient à la famille des cyanobactéries qui ont créé l'oxygène sur Terre, qui a permis l'apparition de la vie. Puis après, elle a fait un grand voyage. Et 3,5 milliards d'années pour arriver à être mangée depuis des siècles par les Kanembus au Tchad, autour du lac Tchad, et par les Aztèques autour du lac à Mexico.
Et c'est là où il y a eu les premières fabriques industrielles de spiruline au XXe siècle.
C'est ça. Donc c'est Sosa Texcoco qui voulait extraire du carbonate de sodium du lac Mexico. Et comme c'est propice à la vie de la spiruline, en fait, ils étaient embêtés par une microalgue. Et puis c'est à peu près à ce moment-là qu'on a découvert en Occident les vertus de la spiruline et que donc ils se sont mis à récolter de manière industrielle la spiruline.
Et alors quelles sont les vertus de ce super-aliment, si on peut parler de super-aliment?
Oui, il y a un livre, un ouvrage qui s'intitule comme ça. Ben, en fait, la spiruline est l'aliment qui contient le plus de protéines, le plus de bêta-carotène, de vitamine B12, d'acide gamma-linolénique, de phycocyanine que tout autre aliment. Et elle contient toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Enfin, quand on fait la liste de tout ce qu'elle contient, souvent on a l'impression qu'on en dit trop. Mais au final, c'est ça qui fait ses vertus. C'est-à-dire que c'est un aliment qui, par la synergie de tous ces éléments, aide à peu près à chacun à avoir tout ce dont il a besoin pour être dans un bon état de santé.
Émilie et Franck, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez visiter la ferme arc-en-ciel.
Actuellement, on a 3 serres de production de spiruline. Et sous chaque serre, on a à peu près 200 mètres carrés de bassin. Au total, on a une ferme qui, avec 550 mètres carrés de bassin, exactement.
Donc là, on se rapproche de la première serre.
Alors nous voilà dans la première serre de spiruline où se trouvent 3 bassins. Voilà. Donc 3 bassins avec des tailles différentes. Donc un petit bassin de 30 mètres carrés, un de 60 mètres carrés et un plus grand de 100 mètres carrés.
En fait le premier et le plus petit, c'est notre bassin de nurserie. C'est la première fois qu'on a mis de la spiruline dans la ferme, on l'a mise dans ce bassin là. Et après en fait on l'a fait se multiplier dans un bassin et après on peut la transvaser d'un bassin à l'autre.
Comment on transvase de la spiruline? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est l'étape de croissance qu'on réalise en début d'année. On fait passer la spiruline d'un bassin à un autre juste avec une pompe et un tuyau qui transvase. Alors ça, c'est une étape qu'on réalise au début. Et après, une fois que tous nos bassins sont remplis de spiruline, on passe à l'étape de récolte qui commence début mars, mars-avril.
Et c'est vrai qu'en fait, les moments d'émotion, on va dire, dans la ferme, c'est quand on ensemence un nouveau bassin. Quand on ensemence un nouveau bassin, c'est qu'on a préparé son milieu de culture pH proche de 9, 9,5, donc c'est très basique. La moitié de la salinité de l'eau de mer, enfin tout ça est prêt avec tous les sels minéraux, etc. Puis là, on amène la spiruline. Et la première fois qu'on a amené de la spiruline ici, on l'a été la chercher vers Aubagne, chez un ami qui a une souche d'origine éthiopienne. Et puis on a ensemencé le premier bassin. Et l'année dernière, on a voulu ajouter une nouvelle souche parce qu'on aime bien la biodiversité. On a été chercher une souche d'origine indienne. Et on a refait le même chose.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Alors là, on entend l'agitation parce que la spiruline a besoin d'être agitée. Ces bassins sont remplis d'à peu près 15 cm de milieu de culture, donc c'est pas profond. Et ce milieu de culture dans lequel se développe la spiruline a besoin d'être agité. Donc on a ou des pompes ou des roues à eau qui font circuler notre eau. La circulation se fait un peu comme les pêches au canard qu'on a l'habitude de voir dans les fêtes foraines. Ouais, il y a une chicane au milieu et un courant qui se crée circulaire. Là, nous, on a choisi de faire tourner notre spiruline toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors après, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien ici, on voit qu'on a des filets d'ombrage, parce que la spiruline a besoin de beaucoup de soleil pour se développer, mais d'un soleil tamisé. Pour développer des bonnes choses à la spiruline, on a tendance à ombrer les bassins. On constate qu'elle pousse dans une eau qui est très verte, hein, c'est la spiruline qui donne cette couleur. Et cette eau, elle est à la fois salée, on met deux fois moins de sel que dans l'eau de mer, et elle a à la fois un pH très élevé. C'est ce qui contribue à conserver l'équilibre sanitaire des bassins. Voilà. Un pH qui varie entre 10 et 10,5.
Et la température de l'eau doit être régulée ?
Oui, alors comme c'est à l'état naturel, elle pousse dans les lacs des régions chaudes. Donc c'est vrai que c'est les cyanobactéries, elles aiment bien la chaleur. Mais on a tendance à penser qu'elle s'adapte aussi à nos climats. Et on a même vu arriver à repartir au printemps après des périodes de gel. Et donc en fait, sinon, sa température idéale de croissance est entre 30 et 35, on va dire. C'est là qu'elle se multiplie le plus vite.
Et là, Émilie, qu'est-ce qu'on entend ?
Alors c'est une autre pompe, mais qui est un petit peu plus vieille que les autres, c'est juste c'est pour ça qu'elle fait un bruit un peu différent.
Et le parfum que l'on respire ?
En fait c'est l'odeur de la spiruline, effectivement, c'est une odeur assez atypique. Souvent les gens me disent qu'est-ce que ça sent ou quel est le goût.
Alors qu'est-ce que ça sent ? Quel est le goût ?
C'est ce que je dis toujours aux gens, il faut venir pour sentir et il faut goûter pour savoir, parce que le goût, c'est un goût d'un végétal quand même. Mais ça, on m'a tout dit, on m'a dit de la pistache, aux épinards, en passant par le champignon. Vous voyez, donc ça dépend un peu des papilles des gens.
On nous demande souvent à quel moment on peut réaliser une récolte. Et là, on a eu la démonstration. En fait, on peut réaliser la récolte quand c'est suffisamment concentré. Et pour savoir, en fait, on ne le fait pas avec la main. On enfonce ce qu'on appelle un disque de séquille.
Alors là, vous êtes allé au fond.
Oui, là, je suis allé au fond.
Et vous savez, mais alors c'est parce qu'on est à cette saison où il fait froid. Et alors quand il fait froid, elle a tendance à pouvoir aller au fond pour se protéger. Donc effectivement, vous avez fait une récolte de quelques grammes.
Là, j'ai fait une récolte magnifique de spiruline.
Tout à fait.
À partir de cette étape, il faudra diviser par 10 pour avoir le volume final. Voilà, si j'ai récolté 10 litres de spiruline égouttée, c'est-à-dire qu'il sort des bassins, et bien j'aurai seulement 1 kilo de spiruline séchée.
Donc il faudrait diviser ce que vous avez dans la main par 10 pour voir qu'est-ce que vous auriez en spiruline séchée.
C'est-à-dire pas beaucoup.
Très peu. Et vous sentez, c'est un peu, vous sentez ?
Oui,
c'est un peu comme le savon au toucher. La texture de l'eau,
ah, oui.
Elle est un peu, c'est un peu comme si c'était savonneux quoi. C'est une eau qui est donc basique.
C'est une eau basique.
C'est ça.
Vous m'avez dit que les flamants roses adoraient la spiruline, mais là, dans votre ferme, je ne vois pas de flamants roses. Comment se fait-il ?
C'est vrai. En fait, à la fois, ça serait un rêve. Hein. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on arrive à avoir un lac naturel de spiruline avec des flamants roses. C'est un des sujets de recherche, on va dire, de la spiruline, de refaire les milieux naturels. Et d'ailleurs, on a trouvé de la spiruline en Camargue, en fait. Donc, ça peut exister. Les flamants roses adore la spiruline parce qu'en fait, dans par exemple tous les lacs de la vallée du Rift africain, tous les lacs où on peut trouver des flamants roses, mais en général c'est le flamant minor, le petit, le flamant nain. Et ben, donc de l'Éthiopie jusqu'au Kenya, etc. Donc il y a des flamants roses et il y a toujours de la spiruline.
Et je vous aide à enlever cette grosse brique.
Et alors là, Émilie, on est où?
On est dans la deuxième serre qu'on a installée, avec donc deux bassins qui sont assez grands. Et il y a donc, on entend les roues à aubes. Au lieu que ce soit des roues à aubes qui soient par exemple sur un bateau et qui fassent que le bateau avance, les roues sont fixes au-dessus du bassin et c'est elles qui font tourner l'eau. De la même manière que tout à l'heure, d'une manière circulaire avec une chicane au milieu. Et comme je vous disais, c'est pas le même tempo. Hein. Ça va plus vite, ça agite plus efficacement quelque part que les pompes.
Ici, on se trouve dans l'espace dédié à la récolte. Donc, la récolte de spiruline, c'est très simple. Comme un pêcheur qui veut capturer ses poissons, on utilise un filet de pêche. Sauf que nous, notre filet, il a des mailles très fines. Alors, le voilà, notre filet, c'est un filtre de sérigraphie qui a une dimension particulière pour laisser passer l'eau, mais capter les spirulines. Donc là, la récolte, elle commence comme ça. On puise du liquide. Nous, on le fait avec une pompe et un tuyau qui arrive sur cette table. Sur la table, on a mis le filtre de sérigraphie qui va capturer nos spirulines. Et après un certain temps de filtration, on obtient le produit. La première étape, c'est la spiruline égouttée. Elle a à peu près la texture d'un yaourt, un yaourt très vert, bien entendu. Et à cette étape-là, la spiruline, elle n'est pas comestible encore parce qu'elle est encore protégée par son milieu de culture. Voilà, donc il va falloir la presser. Avant qu'elle devienne comestible. Et voilà, et donc au fur et à mesure de cette récolte, notre filtre qui est tout blanc, il devient de plus en plus vert. Voilà. Et après, nous dans notre ferme, à chaque jour de récolte, on arrive à obtenir une cinquantaine de litres de cette spiruline égouttée. C'est à peu près 5 seaux d'une pâte qui aurait la texture d'un yaourt.
Et est-ce qu'il y a des artistes qui ont travaillé avec cette toile de sérigraphie?
Alors j'ai pas la connaissance de projet artistique à base de cette toile.
Et alors maintenant on va où?
Une fois qu'on a obtenu cette pâte, il faut la presser. À partir de maintenant, on se dirige au laboratoire où on va presser la spiruline. Donc là on arrive dans une petite pièce qui fait une vingtaine de mètres carrés, dans laquelle donc on a trois éléments importants de la récolte. On a une presse qui nous permet de presser la spiruline. On a une presse avec un palan.
Et un treuil aussi. Oui.
Voilà, un treuil. Alors c'est les techniques de production en France sont pour la plupart artisanales. C'est du fait maison, puisqu'on n'a pas d'outils pour l'instant, on n'a pas d'outils spécifiques pour la spiruline. Alors ici, c'est un poids qui fait une demi-tonne, qui va appuyer sur des sacs dans lesquels j'aurais mis ma pâte de spiruline. Donc ce poids d'une demi-tonne va appuyer sur mes sacs et va permettre d'évacuer le milieu de culture. Cette presse, elle est sur le modèle des presses qui permettent de faire du jus de pomme. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le liquide qui s'en va, mais ce qui va rester sous la presse. Et cette étape de pressage sur ma ferme, il dure environ une heure.
Et comment on actionne cette presse?
Alors cette presse, c'est manuel. Je vais vous faire une démonstration. Donc là, il suffit. C'est juste un palan avec une chaîne qui nous permet de soulever le poids qui fait une demi-tonne. Mais...
Vous êtes très fort.
On ne parle pas.
La bouche pleine.
Sur France Culture.
Avec Alain Kruger.
Alors qu'est-ce qui se passe après l'étape du pressage?
Après l'étape du pressage, on obtient une pâte qui a à peu près la texture d'un beurre. Et c'est ce qu'on appelle la spiruline fraîche.
Donc la spiruline fraîche est comestible. Mais par contre, cette spiruline se conserve que 3 jours en respectant en plus la chaîne du froid. Et donc nous, on commercialise uniquement la spiruline séchée. Donc cette spiruline fraîche, pour la sécher, eh bien, on la transforme en spaghetti. On la façonne en spaghetti afin de la faire sécher, parce que la forme du spaghetti est une forme qui va nous permettre de sécher très rapidement. Comme les récoltes de spiruline se passent tous les jours, il faut sécher rapidement. Et donc, la troisième étape, c'est de récupérer cette spiruline fraîche et de l'extruder avec l'appareil qu'on voit derrière, c'est l'extrudeuse.
Ah oui, voilà, bien que c'est une extrudeuse.
Ouais, c'est une extrudeuse.
Alors, qu'est-ce que c'est une extrudeuse?
Alors, en fait, là, vous voyez qu'elle a vécu. Hein. C'est quand même sa troisième saison. Donc, c'est un appareil qui est tout en inox. Donc, en fait, on a dérouté, on va dire, l'utilisation de cet appareil qui, normalement, sert à faire des saucisses. Donc, en fait, normalement, vous mettez la chair à saucisse là-dedans. Voilà, il n'est pas installé, mais il y a un couvercle que vous mettez là. Et après, vous baissez. Et là, ça fait sortir des saucisses que vous préparez, donc. Sauf que, du coup, nous, on a une petite pièce spéciale avec des tout petits trous qui fait qu'au lieu d'avoir des spaghettis taille saucisse qui auraient quand même du mal à sécher, tout le monde s'imagine.
C'est pas la taille du spaghetti, effectivement.
C'est ça. Et donc, on a des tout petits trous qui nous permettent de façonner la spiruline avec des petites brindilles. Et donc là, en fait, c'est juste pour vous montrer. Quand on prépare les spaghettis, en fait, on met la clé sous l'extrudeuse. Et en fait, c'est un geste très intelligent que j'ai, moi, du mal à faire et que Franck arrive à faire. En fait, il faut arriver tout à la fois à faire le mouvement de va-et-vient avec le bras et à la fois, là, ici, à baisser avec la manivelle. Quoi. Oui, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on essaie de taper sa tête en tournant la main sur son ventre.
Oui, c'est
un peu ça.
Oui.
Sauf que, du coup, dans le principe, j'y arrive à force de m'entraîner. Mais comme ici, c'est du manuel et que c'est quand même assez dur, quand on arrive à des moments où il faut forcer, je me suspends sur la pointe des pieds pour arriver à tourner la manivelle et donc c'est difficile de tirer le bras. Enfin, c'est le geste qui est quand même, avec le geste de la récolte, c'est le geste qui est le geste fétiche, on va dire, des spirulines qui l'adore. Il y a des gens qui ont ça depuis 10 ans et ils voudront jamais passer à l'hydraulique parce que c'est ce geste qui leur plaît, quoi. Et puis de voir, si vous voyez, bon là on n'a pas de spiruline pour voir, mais si vous voyez quand les spaghettis se mettent à se remplir là sur la clé, ben chaque clé c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. Et ça fait plaisir après de la mettre dans le séchoir, quoi. Vous aurez un mouvement plus authentique si c'est Franck. Il y a donc 2 crans.
Voilà, c'est comme ça.
Et si vous revenez l'année prochaine, on gardera ce modèle quand même qu'on aime parce qu'il nous a permis de faire nos premières spirulines, mais on va en acheter un hydraulique qui va permettre en fait de sortir des spaghettis sur une largeur plus grande. Et aussi que ce soit plus facile pour moi de le faire. Parce que c'est vrai que là, c'est dur pour moi physiquement. Quoi.
Ces spaghettis, on peut les manger tels quels?
C'est la spiruline fraîche. Donc, si vous la mangez tout de suite ou si les analyses sont bonnes, que vous la mangez dans les 2 jours et tout, effectivement. Mais sinon, c'est une fois qu'elle est séchée. Je vais vous montrer la petite pièce. Voilà donc la petite pièce par laquelle sont sortis tous les kilos de spiruline qu'on a produit ici.
Ah oui, effectivement, c'est des spaghettis, enfin, c'est des linguinés.
Oui.
Utilisez comment la spiruline? Vous l'utilisez en condiment?
Oui, on l'utilise en condiment. En fait, la quantité, à peu près, c'est une cuillère à café par jour. Après, du coup, chacun a un peu ses manies, on va dire. Hein. Par exemple, notre fille, elle l'aime pure, elle la mange comme ça à la cuillère. Notre fils, il va l'aimer sur les pâtes. Moi, j'aime bien dans la vinaigrette. Franck, il l'aime bien un peu partout. Voilà, donc après, dans nos clients, il y a des fans du yaourt, par exemple. Le yaourt où il y a la spiruline. Voilà.
Et la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? C'est de la commercialisation directement? Vous la mettez dans la
séchée? Elle n'est pas séchée, là.
Ah oui. Alors, on va la sécher.
Alors, vous voyez, en fait, on a une pièce où il y a 4 portes. Et chaque porte est une armoire de séchage. Et en fait, chaque porte permet de sécher à peu près l'équivalent d'une des serres qu'on a vues tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça va se faire là ? Oui. Donc, en fait, c'est un séchoir solaire. Alors, dans les fermes, il y a différents types de séchoirs. Mais grosso modo, on est à peu près tous sur le même principe de ventiler pour arriver à sécher la spiruline dans la journée, comme Franck expliquait tout à l'heure. Donc, en fait, là, il y a des clés de séchage. Donc, vous voyez, il y a, dans cette armoire, en fait, il y a bon, au moins une dizaine, douzaine de clés hein, sur trois colonnes. Et donc, c'est ça qui nous permet de poser les spaghettis de spiruline. Et donc, en fait, le geste de l'après, c'est ça. Donc, en fait, sur le toit du séchoir, il y a des ventilateurs qui sont reliés soit au faux plafond, dans lequel l'air chauffe entre nos tuiles et le plafond, non ? Ou soit derrière à un poêle à bois qui chauffe l'air quand on est un peu hors saison comme ça de chaleur pour arriver à sécher l'espelette.
Et voilà, ben justement, ben on en vient à la dernière étape. C'est une fois que l'espelette est séchée, généralement en pleine saison, ça va mettre 4-5 heures. Donc en fin de journée, on peut vider nos clés de spiruline. Donc généralement, la spiruline qui a séché sur les clés tombe directement nous, on la conserve dans une malle dans laquelle on a mis un drap. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc voici la malle. Et dans cette malle, on a de la spiruline qui sort du séchoir. Après, ces spaghettis, on les concasse pour obtenir le produit fini.
Alors c'est presque une chips, hein, de...
Oui. Effectivement, c'est croustillant, quoi. Il y en a pour faire moderne, ils disent que c'est crunchy. Bon, alors là, dans votre bouche, vous allez sentir qu'elle redevient, en fait, microscopique, parce que comme elle fait 0,2 mm, et qu'on lui garde sa forme d'origine dans notre processus, du coup, elle va avoir tendance à vous coller aux dents, parce qu'en fait, c'est tout petit comme élément. Donc ça redevient microscopique, ça vous colle un peu aux dents. Et par contre, si vous mangez un morceau de pomme ou un morceau de salade ou une date ou une noix, enfin quelque chose avec, ça va pas avoir cet effet, on va dire, collant. Et c'est très colorant.
C'est très joli comme dessin, des petites toiles d'araignées.
C'est vrai. Alors c'est très joli, mais...
Couleur sapin.
Effectivement, mais du coup, ça serait quand même assez volumineux si on voulait le vendre comme ça. Donc pour l'instant, on le fait pas. En fait, on la broie un petit peu plus finement. J'adore cette étape. En fait, quand les gens se demandent toujours comment vous faites pour casser pour obtenir à partir de ça les petits filaments qu'on voit dans nos boîtes, bah, en fait, on reste dans le manuel.
Ah, vous les massez.
N'est-ce pas ? Bon, j'ai jamais dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Donc ça, c'est une des premières étapes pour faire le plus gros du travail, on va dire.
On peut écouter la façon dont vous les massez ? Ça a l'air de leur faire du bien d'ailleurs.
Mais ça, c'est la première étape. Et après, en fait, Franck a un geste à lui avec une spatule inox là, qu'il aime bien pour les broyer encore un petit peu plus finement.
On dirait un petit râteau. C'est un bel objet en plus.
Oui.
Et donc, on concasse ces filaments en les écrasant.
Voilà. Envie de devenir spirulinier.
Moi, j'ai découvert la spiruline en allant au Burkina Faso pour nourrir les enfants qui souffrent de malnutrition, surtout à la période du sevrage. Et donc, en fait, on m'avait dit, mais renseigne-toi aussi sur la spiruline. Moi, j'y allais pour un projet à base de graines germées. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait de la spiruline ici en France, qu'il y avait des spiruliniers là-bas. Et en fait, sinon, c'est une histoire très drôle, c'est que Franck et moi, quand on s'est rencontrés dans la Drôme, donc ça, c'était en 2004, on a des amis qui nous ont présenté à un couple de jeunes qui venaient de s'installer juste là où on venait de s'installer nous aussi. Et c'était Cédric et Laurent, c'est parmi les premiers spiruliniers de France. Et donc on a vu un petit bassin, deux petits bassins, un grand bassin, une ferme qui loue, une ferme qu'ils achètent. Et en fait, leur mode de vie, le fait de manger de la spiruline pendant toutes ces années-là, de voir nos amis en manger, de voir que ça faisait du bien aux gens... Tout ça, ça faisait des années et des années qu'on se disait, bon, quand même, peut-être qu'un jour, on va changer de métier et puis faire ça. Et en fait, une fois, on allait en voyage en Inde, tous les deux, avec notre fille Léa, elle avait 18 mois. On est parti un mois dans un centre d'Ayurveda. Et en ayant à la fois le temps de se poser dans cet environnement qui était très naturel, et puis dans ce mode de vie, et puis entre nous, ben on s'est dit que voilà, allez, courage, on passe le cap, on change de vie, on quitte le CDI et on devient agriculteur, quoi.
Et ça fait combien de temps maintenant ?
Alors ça va faire la troisième année, puisqu'on a commencé en 2013, et donc là, on va clôturer la troisième saison.
Et vous arrivez à en vivre ?
Alors nous, on commence à arriver à en vivre, voilà, c'est vrai que c'est... Un métier agricole, ça prend du temps avant de pouvoir dégager un revenu. Après, la spiruline, c'est vrai qu'il a cet avantage de pouvoir être commercialisé très rapidement. Nous, par exemple, on a eu les terres en location au mois de juillet. Et seulement un mois après, on arrivait déjà à vendre de la spiruline à nos clients. Voilà, donc c'est vrai que c'est une spécificité de la spiruline. Elle a une croissance très rapide et elle nous permet d'obtenir un produit rapidement.
Et vous avez gagné un prix.
Oui. Alors c'est vrai que c'est très étonnant. Alors c'est vrai que Franck disait ça fait 3 ans donc on est producteur ici, mais la reconversion, la décision, ça a quand même mis 1 an et demi avant. On a mis notre maison en vente qui s'est vendue en 2 jours. Donc là on s'est dit oh là là, on se retrouvait en dehors de chez nous plus vite que prévu. Donc on a été habité sous une yourte là chez nos amis qui nous ont formés dans la Drôme. Et quand on a trouvé cet endroit ici à Alès, qui est à la fois donc près des Cévennes, près de la mer, dans un quartier agricole, urbain, etc., etc., enfin ensoleillé comme il faut pour la spiruline, ben on a été donc très contents de s'installer là. Et donc en même temps qu'on s'installait ici, qu'on cherchait est-ce qu'on va trouver un endroit, etc., et on n'avait pas encore signé le contrat de location et tout, hein, ben on a vu que Alès faisait un concours qui s'appelle Alès Audace pour les entreprises innovantes. On s'est dit bon, ben allez, hein, on tente.
Allez, Alès, ouais.
C'est ça. On s'est vraiment beaucoup préparé et on a été assez brillants, je crois. On nous l'a dit plusieurs fois, non mais c'est vrai. Parce qu'on est passionnés, c'est-à-dire que les gens, ils ont vu qu'il y avait du cœur derrière cette histoire. Et en fait, on a gagné quand même 20 000 euros, plus surtout une audience auprès des Alésiens qui nous voient dans le journal de l'agglomération, qui fait que, en fait, quand on est arrivé pour les premières fois dans les magasins ou sur les marchés d'Alès avec cet aliment que, au final, pas grand monde ne connaît.
Ce super aliment,
ouais. C'est vrai. Mais qui n'est pas encore connu par tout le monde, ben là, ici, les gens n'étaient pas surpris. Ils nous disaient juste « Ah ben ça y est, on est content de vous voir, ça se passe bien, etc. » Donc en fait, ça nous a réservé un accueil très chaleureux de la part des Alésiens. Et on est très fiers de nous parce qu'on vend 90% de la spiruline à Alès.
Merci beaucoup.
Merci.
Fais attention, vous.
3, 4...
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de François Rivalan, le mixage de Manuel Couturier et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 et 1 nuits. Vous pouvez la podcaster, la télécharger, en faire des confitures. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture.